Pour savoir tout, tout sur le sport, voici Olivier Beauregard.
Oui, Olivier Beauregard qui est au bout du fil. Salut, ça va bien?
Ben oui, ça va bien, toi?
Ça va super bien. Pour la chronique aujourd'hui, Olivier, on débute avec le Canadien de Montréal. Quelques nouvelles sur l'équipe de hockey qui s'en viennent. On revient notamment là, sur Eric Staal qui a été échangé à Montréal. Bon, qu'est-ce que tu penses, toi, de cette transaction-là?
Ben, d'abord, je trouve que c'est une excellente transaction, puis je m'explique. Je sais là qu'Eric Staal, c'est plus nécessairement le joueur qu'il a été là à une certaine époque. C'était un joueur dominant dans la Ligue nationale. Il a fait de la pluie puis le beau temps avec les Hurricanes de la Caroline à une certaine époque. Il a même connu des belles années avec les Rangers de New York, avec le Wild du Minnesota. Mais ce qui est intéressant à Montréal, c'est qu'il vient combler un besoin qui était, disons, qui posait problème depuis un certain temps, c'est-à-dire au centre, parce que les Nick Suzuki, les Jesperi Kotkaniemi de ce monde, ce sont des bons joueurs, faut pas se tromper. Par contre, il n'y a pas assez d'expérience pour pouvoir identifier ces gars-là comme des centres numéro 1, 2, et ça fait en sorte que ben on leur donne trop de charges respectives. Tu sais, on regarde dans les derniers matchs, c'est correct, on affronte tout le temps les mêmes équipes cette année en raison de la COVID et de la façon que le circuit a formé ses divisions, mais on regarde Nick Suzuki certains soirs qui va affronter un Connor McDavid ou un Austin Matthews, puis c'est jamais facile de pouvoir garder une certaine cadence quand tu affrontes des gars comme ça, parce que justement, le manque d'expérience fait en sorte que il y a des petites choses, disons, que tu peux te faire battre et ça peut faire mal au bout du compte. Écoutez, ça fait des semaines qu'on analyse la situation au centre chez le Canadien de Montréal, puis on se dit qu'il faut absolument trouver une façon de renforcer cette position-là. Et l'ajout d'Eric Staal, pour moi, c'est ça. C'est un gars qui a gagné la Coupe Stanley, c'est un gars qui a gagné une médaille olympique, qui a gagné un championnat du monde. Écoutez, il sait comment gagner. Il a été, comme je le disais tout à l'heure, un joueur assez dominant dans la Ligue nationale de hockey. Alors, pour moi, c'est de l'expérience vraiment importante. Puis je sais, il y en a qui vont dire, voyons donc, ce gars-là est en fin de carrière, qu'est-ce qu'on fait? Ben, je vous ferai remarquer que la plupart d'entre vous avaient dit la même chose sur Corey Perry lorsque Marc Bergevin l'a signé à la fin au début de la saison. Et je me rappelle, les gens disaient, voyons donc, Corey Perry est fini. Et présentement, je vois pas beaucoup de gens qui critiquent le travail de Corey Perry dans l'alignement du Canadien. Au contraire, on aime le voir en avantage numérique. On aime sa fougue. On aime également sa contribution offensive. Alors, je vois pas pourquoi ce serait une mauvaise nouvelle, d'autant plus que Bergevin a fait des pieds et des mains et a surtout fait des calculs mathématiques incroyables, évidemment, avec ses collègues, pour aller chercher Eric Staal, parce qu'Eric Staal commandait un salaire de plus de 3 millions de dollars, et on le sait, la masse du Canadien est assez prise à la gorge, on va le dire en bon québécois, et on se disait comment on va faire pour absorber ce contrat-là, et bien Marc Bergevin a réussi à donner des choix au repêchage seulement, puis pas des choix nécessairement qui vont faire du mal aux Canadiens à long terme. En plus, les Sabres de Buffalo ont décidé de retenir 50% du salaire d'Eric Staal, alors ça fait en sorte là, que ce gars-là s'amène à Montréal, on le paye 1 million quelques par année pour la saison. Et ça fait en sorte également que le Canadien s'engorge pas au niveau de la masse salariale, est capable de le mettre dans l'alignement, est capable de le faire jouer. Puis comme je dis, il vient remplir un rôle important. Évidemment, il n'a pas joué, il est toujours en quarantaine en raison de la COVID-19. Il sera pas en action ce soir contre les Sénateurs à Ottawa. Mais on pourrait le voir la semaine prochaine. En fait, on va le voir la semaine prochaine. Je vois pas pourquoi il jouerait pas de match. Alors ça, c'est vrai. Pour moi, c'est une excellente nouvelle. C'est un beau travail de Bergevin. Et ça montre également pour les vétérans de l'équipe que le DG, là, il pense que ça se peut que l'équipe fasse un bon bout de chemin en séries éliminatoires avec les bons morceaux de casse-tête, si tu veux. Alors, si on est capable, du côté du Canadien de Montréal, de faire une place de choix à Eric Staal, et si lui est capable de contribuer, écoute, ça peut pas être pire qu'à Buffalo, là. Buffalo, c'est la médiocrité. On avait 18 revers consécutifs avant hier soir. Ça avait aucun bon sens là-bas. Je pense que pour Eric Staal, c'est un changement d'air vraiment important. Et, le passé l'a déjà montré. Quand un joueur quitte un environnement, disons, nocif et s'amène dans un environnement plus positif comme Montréal, eh bien, généralement, il y a une certaine... j'ai tellement le mot en anglais, mais il y a un hype derrière ça, là, tu sais. On est enjoué d'avoir un gars comme ça, puis lui également, il l'est. Alors, j'ai hâte de voir comment Dominique Ducharme va l'utiliser. Est-ce que ce sera un centre de quatrième trio, un centre de troisième, deuxième, même premier trio? C'est pas impossible, mais ça, on verra à partir de la semaine prochaine.
Parfait. On reste à Montréal aussi, le Canadien qui a mis sous contrat Cole Caulfield. C'est quoi ton feeling par rapport à ce nouveau jeune joueur-là?
Ben écoute, tu sais, si on écoutait les partisans, là, on vient d'aller chercher Wayne Gretzky, là. On va se calmer un petit peu, là. Cole Caulfield n'a pas mis les pieds sur une patinoire de la Ligue nationale encore, puis il y en a qui pensent que ça serait le meilleur marqueur à Montréal. Je vous dis pas que ça sera pas le cas un jour. Je vous dis que présentement, par contre, moi, je suis content que le Canadien a décidé de l'envoyer dans la Ligue américaine parce que, pour moi, son développement est plus important que la saison actuelle du Canadien de Montréal. Combien de fois on a brûlé des joueurs, pas juste à Montréal, là, dans la Ligue, là, historiquement, mais combien de fois on a brûlé de jeunes joueurs parce qu'on a voulu les amener trop rapidement pour leur accorder un rôle trop important. Tu sais, si je prends l'exemple du Canadien, là, il y a Guillaume Latendresse à une certaine époque qui, lui, a été lancé directement dans la Ligue nationale. Puis en plus, lui, c'est un Québécois, c'était pas facile pour lui. Là. Les gens scandaient le nom Guy, ça avait aucun bon sens, une pression pour un jeune homme comme ça. Alex Galchenyuk, à une certaine époque également, on a décidé de le lancer dans l'alignement du Canadien, on l'a pas fait jouer dans la Ligue américaine. Et dès qu'il a commencé à connaître des matchs plus difficiles, des saisons plus difficiles, sa confiance est brisée. Et là, il tente en ce moment, il se bat plutôt pour avoir une place dans un alignement de la Ligue nationale. Ça reste un choix de première ronde. Alors, contre-profil pour moi, là, il s'en va avec Joël Bouchard. Il se prépare pour peut-être la saison prochaine, peut-être dans 2 ans. C'est pas impossible, là. Faut pas partir en peur. Et c'est ça le danger. Et je sais qu'il y en a qui nous écoutent présentement qui disent, hey, moi, je veux le voir à Montréal le plus rapidement possible. Je suis convaincu qu'il peut produire offensivement. Oubliez pas une chose. La Ligue nationale de hockey, c'est un cliché, mais c'est pas une ligue d'apprentissage. La Ligue américaine est faite pour ça. Faut que t'ailles prendre tes galons. Faut que t'ailles un peu faire des erreurs, comprendre tes erreurs, puis surtout, jouer beaucoup de minutes. Parce que, à Montréal, pas certain que Cole Caulfield aurait autant de minutes. On pourrait jouer un 15, 16, 20 minutes par soir. Moi, je pense pas. Je pense qu'au contraire, à Montréal, il pourrait se limiter en bas de 10 minutes. Puis, finalement, c'est son développement qui serait retardé. Alors, va à Laval, va gruger des minutes, va jouer en avantage numérique. Puis, j'espère pour lui que ça sera le joueur tant escompté, que tout le monde nous parle, que tous les partisans, tous les spécialistes de salon nous disent qu'il faut absolument qu'il joue à Montréal cette saison. Moi, je vous dis, on prend notre garde égale, on regarde le jeune aller, puis après ça, bon, on prendra des décisions en temps et lieu. Puis de toute façon, vous et moi, c'est pas nous autres qui allons avoir la décision, ça va être le directeur général, ça va être les entraîneurs, puis moi, je suis convaincu qu'ils vont prendre la bonne décision, parce que des fois, c'est important un peu d'apprendre de ses erreurs.
Exact. On lui laisse la chance de faire ses classes quand même. Et on revient un peu plus près de chez nous, en Outaouais, avec Marc-André Barriot, le Gatinois qui a gagné son combat en UFC.
Oui, absolument. Ben, j'en parlais la semaine dernière. Je vous disais à quel point c'était un combat qui était important pour lui. Je rappelle l'historique rapidement là, pour les gens qui ne savent pas nécessairement c'est qui. Marc-André Barriot, comme tu l'as mentionné, c'est un Gatinois, c'est un gars de l'Outaouais qui s'est expatrié à Québec, qui s'est entraîné, qui a fait ses galons au niveau de la TKO. Par la suite, signe un contrat professionnel de 4 combats en UFC. Ça n'a pas parti de la bonne façon. C'est-à-dire que pour lui, 3 défaites et 3 défaites consécutives se rend à son 4e match de son premier contrat, son dernier contrat finalement. Et il remporte la victoire. Par la suite, il y a un scandale de dopage. On dit qu'il a été testé positif à des produits dopants. Alors, on se demandait vraiment c'était quoi l'avenir pour Marc-André Barriot. On savait qu'il était en quête de rédemption. Et le nouveau contrat que l'UFC lui a accordé, premièrement, c'est un coup, pas un coup de chance parce qu'il a travaillé excessivement fort, là, mais je veux dire, il y a quand même un peu de chance là-dedans parce que ça arrive pas à tous les jours que des combattants testés positifs ont une chance de revenir aussi rapidement, après une suspension seulement de 9 mois. Alors, c'était un combat excessivement important la semaine dernière et j'ai adoré ce que j'ai vu. Il a lancé un message clair à Dana White, à l'UFC. Il a dit, moi, ma place est ici. Je vais vous montrer que je mérite d'être là. Et pas de n'importe quelle façon. Il a pas gagné ce combat-là de façon, disons, tu sais, un peu par la porte d'en arrière. Mm-hmm. Au contraire, au 3e round, il a été complètement dominant. Il a même eu un KO technique sur son adversaire. Moi, je pense que Marc-André Barriot a son destin de ses mains. Maintenant, c'est à lui de continuer à travailler, continuer à pousser. Et on sait jamais, là. On a plutôt une page d'histoire qui est en train de s'écrire pour un gars de l'Outaouais qui est dans le plus grand circuit du monde dans son sport. Alors non, c'est intéressant. Moi, je suis vraiment content. Marc-André, je le connais très bien. Puis je suis content de voir que pour lui, là, ce n'est qu'un mauvais souvenir, cette histoire de dopage, ce premier scandale-là dans sa carrière professionnelle, en espérant qu'il n'y en ait pas d'autres.
Excellent. En terminant, Olivier, on revient sur le baseball majeur. À peine commencé, il y a déjà des matchs qui sont annulés en raison de la COVID-19.
Eh oui, absolument. Là, je sais qu'il y en a probablement ce soir qui se préparent, disons, confortablement dans leur salon pour regarder justement le début de la saison de baseball. Et malheureusement, ben oui, il y a eu des annonces aujourd'hui qui ont été faites par rapport à ça. Le match des Mets et des Nationals de Washington a été reporté. Écoutez, la saison là est même pas encore. Le premier lancer n'a même pas été encore fait que le baseball majeur a indiqué que bon, il y avait eu un cas de COVID-19 qui avait été révélé au sein d'une des formes. On donne pas plus de détails. Ce qu'on dit, par contre, c'est qu'on veut être absolument sûr et certain de respecter les mesures sanitaires. Puis c'est normal. Là. Écoutez, la Ligue de baseball a été quand même précurseur dans sa façon de gérer la COVID-19 la saison dernière. Ils ont pratiquement pas eu de cas importants. Ils ont été capables de jouer un calendrier complet. Ils ont été capables de faire les séries mondiales également sans nécessairement que ça devienne une histoire de match repoussé puis de match annulé puis de cas de COVID puis de non-respect. Au contraire, je pense qu'on peut leur lever le chapeau pour ce qu'ils ont fait la saison dernière. Par contre, j'espère, et cette annonce-là aujourd'hui, que rien nous donne un peu l'avant-goût de ce que de la vision de la Ligue, c'est qu'on va pas lever le pied sur les mesures sanitaires. On veut absolument être droit. On veut absolument également être en mesure de donner une saison à nos partisans. Et ça va se faire dans le respect de la dans le respect des mesures contre la COVID-19. Évidemment, c'est pas l'idéal, là, c'est plate quand il y a des matchs reportés comme ça. Ça fait du changement dans le calendrier. Ça a été le cas pour la Ligue nationale avec le Canadien il y a quelques semaines. Mais là, moi, je pense que du côté de la Ligue de baseball majeur, si tu veux bien commencer ta saison, imagine si on avait un match ce soir puis qu'il y a une éclosion au sein d'une équipe. Ça aurait été du chaos, ça aurait été catastrophique comme annonce pour débuter la saison 2021. Alors moi, non, je suis content. Chapeau au baseball majeur. C'est malheureux pour ces équipes-là, mais ils vont avoir l'occasion de reprendre ce match-là. Puis le plus rapidement possible, on le souhaite.
Mais merci beaucoup, Olivier. Ça va faire le tour pour aujourd'hui. Je te souhaite une belle soirée, puis on te retrouve la semaine prochaine avec Sébastien.
Oui, absolument.
Merci, bye-bye.
Merci, bye-bye.